Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va parler des conflits. À la fin de la réunion, on va partager le repas du Seigneur, donc la communion ensemble que nous avons en Jésus-Christ. On va célébrer par le repas du Seigneur. Donc, je me suis dit, aujourd'hui serait un bon jour de parler des conflits. Comment résoudre les conflits bibliquement? Et c'est justement parce qu'il n'y a pas de conflit, à ma connaissance, parmi nous. Donc, c'est un bon sujet pour maintenant, parce que personne ne va se sentir visé. Voilà. Donc, on va lire quelques versets en arrière-plan. Pas vraiment le message même, mais des versets en arrière-plan pour le message. Donc, je vais lire dans 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 22. Et ce sera plusieurs versets dans le premier épître de Pierre que je vais lire. 1 Pierre, chapitre 1, et verset 22. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Donc, la base de notre communion, c'est l'Évangile. Nous avons cru en Jésus-Christ. Nous avons cru que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité. On a cru, on a accepté, et c'est par Jésus que nous sommes sauvés. Tous ceux qui ont confiance en lui. Et c'est ça qui était annoncé par l'Évangile. Maintenant, on va lire dans chapitre 3, versets 8 et 9. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'héritier la bénédiction. Maintenant, on va voir 1 Pierre chapitre 4 et verset 8. On va lire verset 7 et 8. Donc, Pierre met un contexte très général parce que nous croyons que Jésus va revenir. Mais il va revenir quand le Père dit « c'est le moment ». Donc, dans l'optique chrétienne, Jésus peut venir à tout moment. Et donc, Pierre dit « la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Chapitre 5 et verset 5. 1 Pierre chapitre 5 et verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Par ces divers versets que je viens de lire, nous voyons que Dieu s'attend à ce que le chrétien vive différemment du monde. Tout chrétien, selon l'évangile de son salut. On a cru en Jésus-Christ, Dieu veut qu'on soit des chrétiens. Dieu désire voir ses enfants vivre comme de véritables chrétiens, selon le bien et la bonté. Donc, on reconnaît, le bien existe. Le bien est ce qui se conforme au caractère et à la volonté de Dieu. Le monde est plein de bonnes choses grâce à Dieu. Mais aussi, le mal existe. Le mal est ce qui s'écarte du caractère et de la volonté de Dieu. Malheureusement, Adam et Ève ont mangé de l'arbre défendu. C'est pour cela que notre monde est, non pas, il n'y a pas simplement le bien dans notre monde, mais il y a plein aussi de mauvaises choses à cause du diable. Dans la Bible, et donc dans le christianisme, il y a des doctrines incontournables et des pratiques incontournables. L'existence de Dieu est une doctrine. L'amour pour Dieu est une pratique. La Bible nous enseigne la doctrine du Dieu créateur et la Bible nous enseigne la pratique de l'amour pour Dieu. Nous devons aimer Dieu. C'est une pratique. La Bible enseigne aussi la pratique de l'amour du prochain. Nous devons aimer les uns les autres. Nous devons aimer notre prochain. Quand une personne s'écarte de la bonne doctrine ou de la pratique biblique, Jésus nous enseigne que nous devons appliquer la pratique de la discipline. Ceci est le même mot que le mot disciple, disciple, discipline. Un apprenti est une personne qui apprend la discipline de son métier, les principes, les pratiques, les façons, les techniques de son maître. De même, un disciple est une personne qui apprend la discipline de Jésus. En revanche, si un apprenti transgresse les principes ou les pratiques de son métier, il sera rappelé à l'ordre, peut-être réprimandé ou même renvoyé. Et c'est pareil pour les chrétiens. Quand les chrétiens transgressent les doctrines ou les pratiques incontournables de la parole de Dieu, hein, ce n'est pas des traditions, attention, mais ce qui est écrit dans la parole, eh bien les autres chrétiens doivent rappeler à ce frère ou à cette sœur la bonne discipline du Seigneur Jésus. La base de la vie chrétienne normale, c'est la pratique de l'amour. Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a cité ça à partir de Lévitique. Et aussi dans Romains chapitre 13, verset 10, nous lisons, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, à l'autre côté, quand un chrétien pratique le mal, il est comme un train qui a déraillé. Il faut le remettre sur les rails et réparer les dégâts. Donc, on sait que nous avons tous des fautes. Hein? Chacun fait des fautes, il n'y a pas de doute. Hein? On peut être un peu plus compréhensibles les uns des autres une fois qu'on reconnaît que moi aussi, je fais des fautes. Donc, avant de vous mettre en marche pour corriger tous les problèmes chez les frères et sœurs, rappelez-vous de ce que Jésus a dit concernant nos propres fautes à chacun. Dans Matthieu chapitre 7, versets 1 et 2, Matthieu chapitre 7, versets 1 et 2, Jésus a dit, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Aussi, Jésus enseignait dans le même chapitre, Matthieu chapitre 7, versets 3, 4 et 5. Matthieu chapitre 7, verset 3. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Le mot clé dans le christianisme, dans la pratique entre nous, c'est la réconciliation. Jésus nous a réconciliés avec Dieu et nous devons nous réconcilier les uns avec les autres. Jésus est le prince de la paix et donc les chrétiens ne cherchent pas le conflit. Le chrétien n'est pas un bagarreur. La bonté et la paix sont des fruits produits par le Saint-Esprit qui habite dans chaque chrétien. Un chrétien de caractère agressif, de caractère guerrier, vit en contradiction avec le Seigneur Jésus. Il y a cet autre mot, opinion. Ayez, pour commencer, ayez la grâce de reconnaître que l'autre personne a le droit à son opinion. Avoir une opinion différente de la vôtre n'est pas une faute. On a tous droit à nos opinions. En revanche, l'attitude qu'une personne prend pour exprimer cette opinion peut être une faute. Là, on parle de l'attitude. Dans 1 Timothée, je vais lire deux versets, 1 Timothée chapitre 1, verset 5, et la première partie de 1 Timothée chapitre 5, verset 19, mais que la première partie. 1 Timothée chapitre 1 et verset 5. Le but du commandement, donc l'objectif du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et puis chapitre 1 verset 19, la première phrase, en gardant la foi et une bonne conscience. Donc, on veut garder cette attitude quand on se considère soi-même et aussi quand on est un peu surpris par l'opinion de l'autre. Il faut que nous gardions une bonne conscience et on reste dans la foi et la pratique de l'amour, le respect de l'autre. Il y a un autre mot, la fausse accusation. Ayez également la grâce de reconnaître que l'accusation n'est pas la preuve de la culpabilité. Il y a plein de gens qui sont accusés de ceci et de cela, qui, en fin de compte, n'ont pas fait ce dont on les a accusés. Vous pouvez avoir tort quand vous accusez l'autre. Les juges et les jurés déterminent la culpabilité. Une accusation peut être fausse. Auriez-vous l'humilité de reconnaître vos torts si la personne est jugée innocente? Ou est-ce que vous allez persister, même quand il est déclaré innocent, quand la personne est déclarée innocente, que vous allez continuer à dire non, 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 la personne est coupable et vous allez vous aigrir, etc. Et il a l'humilité de reconnaître. Et j'espère que le chrétien va chercher la paix et le bien. Le chrétien, il va chercher à aider. Ce sont tous des questions d'attitude optique chrétienne. Dans Romains chapitre 12, et je vais lire versets 17 et 18, Romains chapitre 12, versets 17 et 18. Romains chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc ça veut dire qu'il y a toujours des gens qui vont être contre vous, mais vous n'êtes pas obligé d'être contre tout le monde. Okay? Il dit, ce qui dépend de moi, je dois être en paix avec tout le monde. Lorsqu'il y a un conflit, le mal est en action. il prend le dessus et donc il y aura des blessures. Si on commence à avoir des conflits entre nous, on va se blesser les uns et les autres. Ces choses arrivent à cause de la chair. Donc, quand on dit la chair, dans ce contexte, on parle de notre nature pécheresse et à cause du diable. Ce conflit ne vient pas de la vie chrétienne en actif. En général, les conflits trouvent leur origine dans la poursuite de l'argent, de l'autorité et diverses manifestations de l'égoïsme. Je ne parle pas ici, dans notre message aujourd'hui, je ne parle pas des diverses activités maléfiques comme le meurtre, les viols, les choses comme ça. Les choses qui ne doivent jamais exister chez les chrétiens. Je ne parle pas de ces actes grossiers comme ça. Je parle des conflits entre les frères et sœurs. Mais il faut reconnaître que dans la religion, il y a aussi des conflits, des fois, n'est-ce pas? Sur la doctrine, par exemple, sur la pratique, aussi sur l'autorité et parfois aussi concernant l'argent. Okay? Donc, ça ne veut pas dire qu'on est innocent et bien protégé de toutes ces choses. Tout ça existe, même dans le christianisme. Donc, vous pouvez offenser une autre personne, par exemple par vos paroles, par vos actes, par vos lacunes, par votre attitude, par un manque de bien, un manque d'amour ou même un manque d'aide. Et encore pire, par des calomnies, des méchancetés, des mensonges, des vols, des adultères et plein d'autres choses que vous pouvez faire pour offenser les autres personnes ou fauter ou même pécher contre eux. Quand il y a un point de conflit, le chrétien cherche à régler le problème. Il cherche à régler le problème, mais humblement. Ce n'est pas un acte de guerre. Nous allons régler ça. On va humblement pour demander à discuter ce problème. Si possible, le problème doit être réglé le jour même. Sinon, le diable va gagner du terrain. Donc, on lit ça dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Éphésiens chapitre 4, versets 26. Si vous vous mettez en colère, donc pourquoi être en colère? Parce qu'il y a un conflit. Oh, ça ne va pas! On se met en colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Parce que quand vous ne le réglez, donc si vous ne pouvez pas le régler tout de suite, c'est une chose, mais si vous pouvez le régler et vous ne le faites pas, alors vous commencez à mijoter sur ça. Ça donne une mauvaise attitude envers l'autre personne et puis le problème devient de plus en plus grand. Okay, donc, le mieux, c'est de régler les choses aussitôt que possible, le jour même, si possible. Dans Matthieu chapitre 5 et verset 22, Jésus est très fort concernant les conflits entre chrétiens. Il dit dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 22, « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère raca mérite, donc stupide, mérite d'être puni par le Saint-Hédrin, et que celui qui lui dit insensé ou sans valeur mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. » Alors Jésus, il est très fort là. Il ne veut pas que les chrétiens soient en conflit. C'est ça qu'il dit là. Regardons ce que Jésus nous a dit aussi concernant les conflits. Donc, je vais prendre Matthieu chapitre 18 à partir du verset 15. Et on va voir qu'il y a quatre démarches à suivre. Donc, Jésus nous enseigne quatre démarches à suivre en voulant régler les problèmes, en voulant obtenir la réconciliation. La première démarche pour régler les conflits, c'est l'entretien privé. Il faut aller voir la personne. Matthieu chapitre 18 et verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Il dit seul. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. L'affaire est réglée, finie, il n'y a plus de problème. L'objectif des confrontations, donc c'est une confrontation, il y a une faute, tu vas voir ton frère pour lui parler de ça. L'objectif, c'est la réconciliation et non pas l'ouverture à l'agression verbale. Ce n'est pas l'objectif. C'est pour cela que les chrétiens sont obligés par le Seigneur d'aller voir celui qui l'a offensé. Il doit aller humblement. Et cette rencontre doit être privée. Ce n'est pas une chose que vous mettez sur Internet ou Facebook ou autre chose. Oh, ben voilà ce qu'on m'a fait. Hein? Ça, ce n'est pas chrétien. Privé. Dieu ne donne à personne le droit d'aller répandre la plainte à des tierces personnes. Ce qui est en fait le commérage. Et le commérage, même si c'est vrai, mais c'est le commérage parce que vous parlez contre cette personne et le commérage est un péché. Donc, celui qui a été offensé devient le pécheur et qui doit donc aller s'excuser auprès de ceux et celles qui sont les victimes de leur commérage. Alors, comme on l'a noté dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27, donc simplement pour rappeler, Dieu oblige que l'offense soit réglée rapidement, promptement, le même jour si possible. Personne n'a le droit, donc Dieu ne donne pas le droit à garder de la rancune. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas bon pour vous de garder la rancune. Et ce n'est pas bon pour l'autre non plus. Dans Matthieu chapitre 18, versets 21 et 22, nous lisons. Alors Pierre s'approcha de Jésus et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Donc il dit, bon, je vais avoir largesse d'esprit. Sera-ce juste à 7 fois? Je suis un grand homme, bon, peut-être 7 fois je peux pardonner l'autre. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Donc 490 fois, pour dire qu'il faut toujours pardonner. Et Jacques dit, dans Jacques chapitre 5, versets 19 et 20, Jacques chapitre 5, versets 19 et 20, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Évidemment, le chrétien ne devrait jamais blesser intentionnellement, bien sûr, une autre personne. Ce n'est pas pour le chrétien d'agir ainsi. Les blessures intentionnelles sont la manifestation d'un problème spirituel grave. Aussi, quand un chrétien blesse quelqu'un, malgré tout, hein, donc ce n'est pas parce qu'il veut le faire, mais il est allé faire quelque chose et quelqu'un a été blessé, eh bien le chrétien s'excuse. Oh, excusez-moi, ce n'était pas exprès, pardonne-moi. Et il le fait rapidement. Voici donc deux obligations que le Seigneur Jésus nous donne. Premièrement, quand on nous a dit que voilà, j'ai fait une faute, il faut le reconnaître, il faut s'excuser en demandant pardon. Et s'il y a besoin ou s'il y a possibilité, il faut faire restitution. Si tu as cassé quelque chose, ben, il faut le remplacer, par exemple. Aussi, face à cette confession, cette repentance, même cette restitution, celui qui était offensé doit pardonner. Donc on doit confesser
et demander pardon.
Et l'autre doit accepter la confession, la demande de pardon et donc pardonner. Quand il y a un malentendu, en fait, il n'y avait pas de vrai problème, mais c'était un malentendu concernant les circonstances ou quelque chose que quelqu'un a dit, etc. Les deux parties doivent se rassurer mutuellement de leur loyauté et amitié en Christ. Si ce n'était pas un vrai faux, je pensais que c'était une faute, je suis venu te voir, mais pourquoi tu as dit ça? Je pense qu'il m'avait offensé, mais en fait, non, ben, je n'ai pas dit ça, j'ai dit ça. Oh oui, j'ai mal entendu, oh excuse-moi, oh ben c'est pas un problème. Et donc, on se rassure de notre amitié en Christ. Et dans le cas des fausses accusations, l'accusateur doit s'excuser auprès de l'accusé en demandant pardon. Ah, mais celui-là, il a fait ça. Et puis tu dis ça plein de monde. Il a fait ça. Il n'a pas fait ça. Donc c'est vous, coupable, vous racontez des mensonges à son sujet. Il va falloir que tu reviennes vers cette personne pour dire, ah, pardonne-moi, j'ai fauté contre toi. J'ai menti à propos de toi. J'ai partagé, j'ai répandu les commérages, etc. Donc, le vrai ennemi, ce n'est pas les frères et sœurs. Le vrai ennemi, c'est le diable. C'est lui l'accusateur, c'est lui l'ennemi. Il faut qu'on se souvienne des fois, ce n'est pas mon frère, ma sœur qui est l'ennemi. Ce sont mes frères et sœurs, ce sont mes amis, c'est ma famille. Mais il y a un être spirituel qui voudrait nous détruire et détruire notre communion. Donc ça, c'était la première démarche. La première démarche, aller voir la personne toute seule, discuter ensemble pour régler la chose. La seconde démarche pour régler les conflits, c'est l'appui des témoins. Matthieu chapitre 18 et verset 16. Mais, s'ils ne t'écoutent pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Donc, vous êtes allé le voir, la personne a dit, ben non! Laisse-moi tranquille, je ne t'écoute pas, ce n'est pas ma faute, etc. Donc, il faut aller avec deux ou trois autres personnes. Ce sont les témoins de cette mauvaise action. Ils ont vu ce qui s'est passé. Ou ils sont quand même, quelque part, témoins de la vérité, ou à la limite, ils sont simplement témoins de vos efforts pour réconcilier avec la personne qui vous a offensé. Si l'attitude et réponse du coupable n'est pas correcte, après l'entretien privé, donc on prend les témoins qui vont appuyer la véracité de la plainte et qui vont aider l'offenseur à se rendre compte de la gravité de l'offense. Cette démarche a toujours en vue la réconciliation. C'est toujours l'objectif. Ce n'est pas pour tracasser la personne, ce n'est pas pour mettre des fardeaux sur une personne, c'est pour revenir à une bonne relation. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas qu'il y a quand même des accusations qui sont fausses, etc. Donc, l'accusé n'a pas obligatoirement tort, car l'accusation peut être en fait fausse ou basée sur une malentendu. Et dans certaines situations, donc, les témoins qui sont là, ils vont en fait aider pour clarifier la situation et donc diffuser les hostilités. Donc vous êtes allé voir la personne n'a pas écouté, vous êtes allé avec des témoins étaient là, ils ont reconnu que vraiment il y a une faute, mais la personne persiste, il ne veut pas reconnaître ses torts, il ne veut pas les réparer. Donc il y a une troisième démarche, la troisième démarche pour régler les conflits, c'est la réprimande publique. Donc là, c'était privé. C'était presque privé. Trois personnes avec l'offenseur. Maintenant, donc Jésus dit, s'il refuse de les écouter, dites-le à l'Église. Quand l'offenseur s'obstine dans son erreur, il faut enfin que l'affaire devienne publique pour que l'offenseur sache que la communauté chrétienne n'accepte pas son comportement. Il ne faut pas aller jusqu'à ce point-là. S'il y a un problème, il faut le régler. tout de suite. Hein? Ou peut-être quand il y a les deux, trois témoins, mais il ne faut pas aller devant l'église et parler de tout ça en public et tout ça. Encore ici, cette troisième démarche devant l'église est un effort pour se réconcilier avec la personne. On offre l'amitié à cette personne si seulement la personne reconnaît ses fautes. Donc, je pense que si on est arrivé jusqu'à ce point-là, on a vraiment un problème. Mais quand même, si on se permet d'avoir un changement de pensée, un peu d'humilité, on va reconnaître, ah, oui, c'est vrai, j'étais un peu obstiné là, mais oui, j'ai tort, excuse-moi, etc. Okay? Mais il y a une quatrième démarche qui existe, malheureusement. Et donc, si l'offenseur continue à s'obstiner, peut-être il doit être exclu de la communauté chrétienne en attendant la repentance. Donc, c'est toujours un acte en visant la réconciliation. Ce n'est pas un acte pour dire, voilà, adieu, on ne le verra plus jamais. Ça, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est qu'on veut, en fin de compte, restaurer la communion fraternelle. Et c'est là, dans Matthieu chapitre 18 et verset 17, la seconde partie, Jésus dit, et si il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. C'est-à-dire, du fait que son comportement est non-chrétien, on doit le considérer comme un non-chrétien. Ce n'est pas pour dire que c'est un non-croyant, mais c'est pour dire que son comportement est comme un non-croyant. Traiter comme on traite un non-croyant. Et comment vous traitez? Comment les évangéliques traitent les non-croyants? On veut les évangéliser. On veut les faire revenir à leur bon sens, changer leur pensée, leur repentance, et se mettre en règle avec le Seigneur. Voilà, c'est toujours la même chose. OK? Seulement la repentance peut ouvrir de nouveau la pleine communion fraternelle avec cette personne. L'exclusion ou séparation est le seul acte disciplinaire par, qu'est-ce que c'est le mot? Reconnu par le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne donne pas plein de choses, le Nouveau Testament donne une chose, c'est l'exclusion. Si l'Église catholique avait compris cela, il n'y aura jamais eu de l'Inquisition, jamais eu les guerres de religion. Dieu ne veut pas que les chrétiens utilisent les méthodes du monde contre les chrétiens. Emprisonner, flageller, humilier publiquement, torturer, brûler, confisquer leurs biens, chasser de la ville et encore plein d'autres choses horribles. Seulement, la rupture de communion, c'est-à-dire la séparation, est validée par le Seigneur Jésus. Cette exclusion ne peut être révoquée ou terminée que après la repentance, c'est-à-dire ils ont changé leur pensée. Ah oui, c'est mauvais ce que j'ai fait ou ce que j'ai pensé, etc. Donc aussi, donc, il faut comprendre que toute la communauté chrétienne, quand on a fait un acte de l'Église pour discipliner un membre de notre communauté, donc toute la communauté chrétienne est obligée à respecter la discipline, cette séparation. La solidarité enlève le pouvoir du malfaiteur. Par contre, le manque de solidarité face au péché donne injustement raison au malfaiteur et prolonge et élargit le problème. Par la suite, cela divise les frères, blesse l'Église et donne ainsi du terrain au diable au lieu d'honorer le Seigneur Jésus. Donc, à bien comprendre, personne n'a le droit à cajoler le malfaiteur dans son péché. Les encourager, les donner des conseils pour qu'il change son comportement, sa pensée, son comportement, d'accord. Mais pas de « Oh, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas », tout ça. Non, pas cajoler le malfaiteur dans son péché. Ce serait faire le mal et prendre position contre votre Église, dont le chef est le Seigneur Jésus. Priez plutôt pour la délivrance et la victoire du royaume de Dieu dans la vie de la personne concernée. En fait, c'est dans ce sens de solidarité autour d'une action disciplinaire que Jésus dit dans Matthieu chapitre 18, versets 18 et 20, donc on va le lire, Matthieu 18, verset 18, « Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. » Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié sur le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est une vérité qu'on aime. Cette pensée spectaculaire. Pourtant, le contexte de ces phrases-là de Jésus, c'est dans le contexte que les frères doivent discipliner un autre frère qui a péché. Il ne faut pas oublier le contexte de ces choses. L'objectif, toujours, de la discipline est la repentance. Bon, ce qui fait référence toujours au changement des pensées. La repentance toujours fait référence ici. Metanoïa, changement de pensée. Okay? Et puis Jean-Baptiste, eh ben, apportez les œuvres qui sont dignes de votre repentance. Un vrai changement dans nos pensées va avoir une suite dans nos actions. Donc, l'objectif de la discipline est toujours la repentance et la réconciliation. Donc, la réconciliation par le changement de pratique ou de comportement. Et nous voyons ce changement d'acte et de pensée et d'acte de réconciliation dans Matthieu chapitre 5. On va lire Matthieu chapitre 5, versets 23 à 26. Ou je ne sais pas si c'est tous les versets là, mais ça partit du verset 23, il me semble. Sinon, tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Donc, toi, tu as fauté contre quelqu'un. Et tu l'as ignoré, peut-être même exprès. Et lui n'a rien dit à toi pour te dire que voilà, tu l'as offensé. Mais voilà, tu es en train de faire tes actes religieux. Et puis, ah, j'ai fait quelque chose contre ce frère-là. OK? Donc, si tu es en train de présenter ton offrande et que tu l'as, en train de faire tes actes religieux, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Confesse ton faute, demande pardon, puis viens présenter ton offrande. Dans ce verset, l'offenseur se rend compte de son péché. Ça se passe dans son esprit, dans ses pensées, et donc il y a un changement de pensée, il se repent, et il change sa pratique en allant demander pardon. Il se réconcilie avec son frère, et donc il n'y a plus de conflit. Donc juste une petite révision de ça, c'est tout petit. Si jamais vous vous trouvez en conflit avec un frère ou une sœur en Christ, cherchez la réconciliation. Cherchez la réconciliation. Suivez les ordres du Seigneur Jésus et allez voir la personne concernée dans une attitude d'amour et d'humilité. En privé et exposez votre plainte. Un à un, entre vous deux. Si vous êtes fautif, hein, quelqu'un est venu vous voir et... Oh, oui, c'est vrai, vous avez fait quelque chose. Si vous êtes fautif, reconnaître les faits et demander pardon. Ça aussi, c'est une question d'humilité et de sincérité et d'amour. Le Seigneur nous appelle à l'amour dans la fraternité, la paix. On a lu tout à l'heure, avec tout le monde, si possible, autant que ça dépend de chacun d'entre nous.